18h. Le journal de 18h. Mel Emmanuel.
18h à Grands Atrées, région de la Nawa et partout en Côte d'Ivoire. Merci de choisir Radio de la Paix. Le gouvernement ivoirien entend renforcer la sécurisation du foncier rural. Volonté et information portée lors du Conseil des ministres du mercredi 28 février 2024. Nouveau statut général de la fonction publique. Au nombre des nouvelles mesures prises, le congé de paternité et l'indemnité contributive au logement attribuée à tous les fonctionnaires. Des mesures qui viennent corriger les insuffisances de celui de 1992, selon la Centrale Plateforme Nationale des Organisations Professionnelles des Secteurs Publics et Privés. Et puis hors de nos frontières au Zimbabwe, le président annule un voyage après une alerte à la bombe à l'aéroport Victoria Falls. Nous démarrons ce journal avec le Conseil des ministres du mercredi 28 février dernier. Le gouvernement ivoirien veut renforcer la sécurisation foncière rurale. Une convention de 123 milliards vient d'être signée avec l'Association internationale de développement. Écoutons à ce propos le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly.
Le sixième décret adopté par le Conseil est relatif à la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 188 600 000 euros, soit 123 713 490 200 francs, conclu le 12 décembre 2023 entre l'Association internationale de développement, l'AID, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale. Ce programme vise à numériser le processus de sécurisation foncière coutumière en milieu rural en vue d'accélérer le processus et de réaliser un enregistrement systématique à grande échelle des terres coutumières. Il prévoit la fourniture de matériel informatique et une assistance technique pour la numérisation complète de l'enregistrement des terres, la conception et la mise en œuvre des campagnes de sensibilisation communautaire et de clarification des droits, ainsi qu'un appui financier à la mise en place et à l'opérationnalisation des comités villageois de gestion foncière rurale.
C'était le porte-parole du gouvernement, Amadou Koulibaly. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, a procédé ce jeudi 29 février 2024 aux deux plateaux à la cérémonie officielle marquant ses 20 ans d'existence. Fait dominant, la conférence inaugurale animée par le vice-président de la République, Timoko Meilié-Koné, le compte-rendu de Didier Blé.
Film institutionnel présentant l'ensemble des immortels, voyage culturel au son du Tourou, du Bologne, du Zaouli, l'ASCAD a célébré ses 20 ans avec FAST. 15 missions lui ont été assignées à sa création, voici quelques-unes, avec le professeur Roa Sepo, son président.
Promotion de la science et la réhabilitation des arts, la sauvegarde et la promotion des langues nationales, l'édition et la publication de revues et d'ouvrages scientifiques, l'octroi de prix d'excellence qui couronne les chercheurs, les inventeurs et les créateurs les plus méritants.
L'ASCAD mérite soutien et encouragement, d'où la présence du professeur Norbert Nkunu du Bénin, président du réseau des académies africaines.
Nous avons une haute mission de construire le développement humain global par la science. Cette académie a fait d'importants travaux.
Le vice-président Timoko Meilié-Koné, conférencier sur le thème éducation, formation, emploi, a quant à lui mis l'accent sur le besoin d'harmoniser le programme académique et le marché de l'emploi.
Notre système éducatif affiche une performance qui doit se renforcer, tant en termes d'acquisition des fondamentaux que dans l'accès à l'emploi. Le tout s'est manifesté jusqu'ici par un besoin persistant d'harmoniser les programmes académiques avec les besoins du marché de l'emploi et de la professionnalisation.
Ces 20 ans de l'ASCAD ont été l'occasion de recevoir quelques nouveaux membres, parmi lesquels l'ancien ministre de la Culture et actuel ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama, dans le domaine des lettres et sciences humaines.
Le nouveau statut général de la fonction publique 2023 vient de naître sur les cendres de celui de 1992. Selon Théodore Zadignagna, le président de la centrale plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés, ce nouveau statut général de la fonction publique vient corriger les insuffisances de celui de 1992. Sur les nouvelles mesures et autres réformes, écoutons Théodore Zadignagna.
Certains fonctionnaires n'avaient pas la possibilité d'aller des grades les plus bas jusqu'au grade le plus élevé qui est le grade A7. Il y avait également des aspects sociaux qui n'étaient pas pris en compte dans le statut général de 92, notamment au niveau de la couverture sociale des fonctionnaires, au niveau de la famille, il y avait pas mal d'insuffisances dans le statut général de 92. Donc c'est tout cela, je pense, qui a été corrigé dans la loi 892 du 23 novembre 2023 qui portant, n'est-ce pas, statut général de la fonction publique.
Est-ce que vous pouvez rappeler les mesures qui ont été prises?
Aujourd'hui, nous avons un congé de paternité qui, nous l'espérons, sera suffisamment long. Et il y a également l'institution du congé parental. L'indemnité contributive au logement est attribuée à tous les fonctionnaires, ce qui n'était pas le cas dans le statut de 92.
Il est aussi prévu des modifications au niveau de la mobilité du fonctionnaire et de la prise en compte des diplômes, c'est ce qui a été noté.
Aujourd'hui, le fonctionnaire dans le nouveau statut qui a un diplôme qu'il a acquis en cours d'exercice peut, n'est-ce pas, s'en prévaloir et avoir une promotion. Le fonctionnaire peut également changer d'emploi et aller dans un autre emploi. Donc, toutes ces possibilités-là permettent au fonctionnaire, n'est-ce pas, d'avoir une mobilité et de se mouvoir de façon plus libre et en même temps de profiter, n'est-ce pas, de ces formations acquises en cours d'exercice.
À l'instant, le président de la centrale plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés, Théodore Zadignagna, joint par Constant Maillé. Parlons santé dans ce journal. Le Centre national de référence de l'unité en soins mère kangourou du CHU de Trècheville a été inauguré ce jeudi 29 février 2024. C'est en présence du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard. D'une valeur de 350 millions, ce nouveau bâtiment entièrement équipé est une contribution du Fonds français Muskoka avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Jean-Mélène Bitté.
À cette inauguration, le ministre de la Santé a fait le point du taux de mortalité maternelle en baisse en Côte d'Ivoire.
Nous notons une amélioration des indicateurs de santé de la mère et de l'enfant en 2012 et 2021 et la mortalité infanto-juvénile est passée de 108 à 114 pour 1000 naissances vivantes et la mortalité néonatale de 38 à 30 pour 1000 naissances vivantes.
Demba Pierre est revenu sur les actions du gouvernement ivoirien qui ont milité à l'amélioration de la qualité des soins du nouveau-né.
Le renforcement en bloc opératoire de proximité, la disponibilité des poches de sang à des prix harmonisés fixés à 3 000 francs pour toutes les couches de la population, aussi bien dans le public que dans le privé, la gratuité des kits d'accouchement et de césarienne, la gratuité des vaccins des enfants de 0 à 23 mois.
L'UNICEF a fait de la valorisation des unités de soins mère kangourou une priorité en Côte d'Ivoire, selon Gilles Fagninou, directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
L'UNICEF a financé la formation d'une équipe de cliniciens ivoiriens en SMK en Afrique du Sud et s'est engagé à apporter un appui au ministère de la Santé pour la création des unités SMK dans les hôpitaux de référence du pays. De 2019 à ce jour, l'UNICEF a appuyé l'ouverture de 15 unités de SMK, dont 3 dans la ville d'Abidjan et 19 dans les hôpitaux généraux de l'intérieur du pays.
Les soins offerts dans ces unités par les agents de santé ont permis de sauver la vie de 3888 bébés sur 4278 reçus, soit un taux de succès de 91% depuis 2019.
Crise dans la filière café-cacao. Une rencontre d'échange entre les responsables des organisations de producteurs s'est tenue. Ces derniers demandent un bilan du système et le réexamen des textes. En effet, selon eux, au niveau de l'environnement commercial, les coopératives de producteurs seraient presque à genoux au profit des régulateurs, y compris celles qui sont cooptées pour la certification en ce qu'elles ne bénéficient pas d'une prime concurrentielle. Sur la question, suivant l'intervention du président du syndicat national agricole pour le progrès de Côte d'Ivoire, Synapsi Kone Moussa.
Nous avons constaté la montée du prix du cacao, le prix annoncé aux producteurs est insignifiant. Alors nous avons adressé des courriers au ministre de l'Agriculture, nous allons adresser le courrier au Premier ministre. Depuis on a déposé ces courriers jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de suite. C'est pour ça qu'on a fait appel à ceux qui nous mandatent pour venir les informer parce que dans le courrier, on a demandé une relecture du texte pour faire le bilan de la stabilisation. Un système, à un moment donné, il faut faire un bilan. On invite au ministre à avoir son conseiller Café Cacao pour qu'on puisse faire le bilan de la gestion depuis 2000, la stabilisation. Et examiner les textes. Parce que nous, on estime que la stabilisation est mise en place au détriment des producteurs. Nous allons dire aux délégués, si rien n'est fait dans les jours à venir, à leur nom, nous allons déposer un préavis de grève pour qu'on rentre en grève, pour contraindre l'exécutif à s'asseoir avec nous pour faire un bilan.
Le président du Synapsi, Kone Moussa, était au micro de Mata Touré. Prenons la direction du Bas-Sassandra dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Pour le bien-être des commerçants, un projet de création d'une mutuelle de commerçants de Côte d'Ivoire a fait l'objet d'un atelier d'information et de sensibilisation des commerçants de la région. Cet atelier, qui s'est tenu le mercredi 28 février dernier à la mairie de San Pedro, vise à motiver les commerçants à une adhésion massive à cet outil de développement et de solidarité. Dans le Bas-Sassandra, la correspondance de Kofi Benson.
Une mutuelle de commerçants de Côte d'Ivoire est un outil essentiel selon Ban Adoubia, sous-directrice des projets au ministère du Commerce et de l'Industrie.
On ne décide pas de tomber malade. Les incendies ne préviennent pas. Donc la mutuelle vient pour couvrir ces aspects. Nous exhortons tous les commerçants à adhérer à cette mutuelle. C'est pour leur bien. C'est moins cher avec 8000 francs pour la santé au niveau des institutions publiques.
Pour Konaté Lassina, président du Conseil ivoirien des commerçants à San Pedro, les impacts positifs de la mutuelle sont prometteurs pour les commerçants.
Nous n'avons pas moins de 50 000 commerçants à San Pedro. Nombreux restent encore dans le secteur informel. On vient d'avoir un atelier dont l'objectif était la sensibilisation et la formation de nos commerçants à l'effet d'adhérer massivement à cette mutuelle. L'impact de la mutuelle, il faut dire qu'elle va aider les commerçants à gérer un certain nombre de facteurs, notamment l'incendie qui touche tous les marchés. Il y a plus de 34 marchés qui ont brûlé en moins de 20 ans. Il y a la santé des commerçants. Mieux encore, le financement de nos activités. On ne peut pas être commerçants sans financement.
Se référant à l'adage qui fait de l'union une force, le secrétaire général 2 de la préfecture, Kofi Aoukan-Claude, a invité les commerçants à faire le choix de la mutuelle.
Là où les communautés mettent ensemble leurs efforts, les difficultés et autres problèmes communs sont mieux adressés et aisément résolus. Ainsi, il n'y a plus de choix à faire. Le seul choix, c'est de se mettre ensemble, c'est d'adhérer aux idées de cette mutuelle.
Bien d'autres sensibilisations sont prévues pour une adhésion effective à ce projet de mutuelle des commerçants de Côte d'Ivoire. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
De San Pedro, nous revenons à Abidjan pour parler de la 15e édition de l'Africa Banking Forum qui s'est tenue du 27 au 29 février 2024. Lydie Ngonogone, l'une des panélistes de ce forum, a affirmé que l'ère du digital aujourd'hui ne va pas sans arnaques et autres infractions, surtout concernant l'argent et la cyber-résilience et la capacité d'une structure ou une personne à prévenir les incidents de cybersécurité, à y résister et à s'en relever. Nous l'écoutons pour en savoir plus.
La cyber-résilience qui est importante quand même pour tous les secteurs d'activité, encore plus dans l'industrie bancaire, avec ce besoin important de confiance, parce qu'on parle quand même d'argent, donc un besoin important de confiance entre déjà entre tous les opérateurs du secteur, mais aussi entre les clients, de savoir que, ben d'accord, on profite de cette technologie-là pour pouvoir améliorer les services, mais après aussi, qu'on arrive à maintenir les risques cyber, parce que tous ces avantages que j'ai cité tout à l'heure, expose d'une certaine manière à des attaques en matière de cybersécurité. Du coup, il est extrêmement important de mettre en place les mécanismes de protection pour s'assurer que on a atteint quand même une résilience cyber qui nous transforme en une cible difficile pour les hackers.
Est-ce que vous prévoyez aussi quelque chose pour le client, pour que lui aussi soit protégé à son niveau?
Pour le client, ou on va dire pour l'utilisateur final, il y a une attaque de sécurité qui est le vecteur principal des attaques aujourd'hui qui touche directement l'utilisateur final, c'est le social engineering, la maçonnage. Donc du coup, il faudrait que l'utilisateur, par exemple, sache reconnaître des communications malicieuses, des emails malicieux, et qu'il ne puisse pas, de manière inopinée, potentiellement cliquer sur un lien qui exposerait soit ses données, soit donnerait accès non autorisé à ses données ou même à son compte bancaire, etc.
À l'instant, Lydie Ngonogone était interrogée par Christelle Yesso. Terminons ce journal hors de la Côte d'Ivoire. Une alerte à la bombe a entraîné la fermeture de l'aéroport de Victoria Falls au Zimbabwe ce vendredi, obligeant le président du pays à annuler un discours prévu lors d'une conférence sur les énergies renouvelables, a déclaré un responsable. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa devait s'adresser à la conférence dans la matinée, mais a dû suspendre son voyage pour permettre les investigations qui sont déjà en cours, a déclaré le porte-parole de la présidence, George Charamba. Les autorités n'ont pas été en mesure de confirmer les informations diffusées par les médias locaux, selon lesquelles l'avion du président aurait opéré un demi-tour alors qu'il se rendait à la conférence. Nous passons maintenant au rappel des titres de ce journal. Le gouvernement ivoirien entend renforcer la sécurisation du foncier rural. Volonté et information portée lors du Conseil des ministres du mercredi 28 février 2024. Nouveau statut général de la fonction publique. Au nombre des nouvelles mesures prises, le congé de paternité, l'indemnité contributive au logement attribuée à tous les fonctionnaires, des mesures qui viennent corriger les insuffisances du statut de 1992 selon la centrale plateforme nationale des organisations professionnelles des secteurs publics et privés. Et puis hors de nos frontières au Zimbabwe, le président annule un voyage après une alerte à la bombe à l'aéroport de Victoria Falls. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur les ondes de Radio de la Paix. Surtout, ne décrochez pas dans un instant le magazine humanitaire avec Sonia Nzian.
Humanitaire.